Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline. Aujourd'hui, en partenariat avec le Salon Histoire de Lire à Versailles, j'ai la chance de recevoir Jean-Christophe Brizard, grand reporter, grand voyageur, réalisateur, écrivain, n'en jetez plus, pour le dernier Manchou. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a été d'abord le déclencheur de cette histoire avant d'en parler ? D'abord, non, le déclencheur de votre goût pour la culture et pour l'histoire.
C'est surtout une curiosité pour l'histoire. J'ai une formation, j'ai fait une fac d'histoire et j'ai fait ensuite des études de géopolitique. Et j'ai essayé de combiner les deux dans ces recherches. Tout a commencé par une rencontre incroyable dans les archives secrètes à Moscou. À l'époque, on pouvait y aller.
Ça veut dire qu'on ne peut plus du tout ?
Ah là, c'est très très compliqué.
Alors, en ce moment, oui, évidemment.
Mais déjà, là, c'était difficile parce que j'avais accès aux archives militaires. Il faut savoir que même les universitaires ont beaucoup de mal à y accéder. Et j'ai réussi à intégrer les archives du FSB.
Waouh ! Les services secrets russes. Hein, pour...
Voilà, c'est ceux qui ont succédé au KGB.
Voilà.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, un peu comme dans beaucoup de pays, l'histoire est très politique. Donc les archives, surtout sur la Seconde Guerre mondiale, sont encore en partie secrètes et non déclassifiées. Et comme j'étais dans ces archives pour une autre enquête, à un moment, je suis tombé sur l'histoire de ce diplomate de la Seconde Guerre mondiale, un diplomate du Mandchoukou. Alors le Mandchoukou, je ne sais pas si ça parle à tout le monde.
Je ne pense pas.
Mandchoukou, Hergé l'avait figuré dans le Lotus Bleu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est un État qui a été créé de facto par le Japon qui avait envahi le nord de la Chine. On est dans les années 30 et avait créé comme ça cet État qui était un État fantoche qui était aux ordres de Tokyo. Et dans ce Mandchoukou, les Japonais ont cherché des Mandchous pour collaborer. Et je tombe sur l'histoire de cet homme dans les archives du KGB. Et pour faire court, ce monsieur était polyglotte, parlait donc chinois, japonais, russe, allemand, anglais et un peu de français. Donc il est envoyé comme diplomate à Berlin et c'est le seul Chinois à avoir rencontré Hitler, à avoir négocié avec lui des accords commerciaux. Et surtout, il a été à Berlin de 1938 à juillet 1944 et il a sauvé 12 000 Juifs. Donc quand je suis tombé sur cette histoire, j'ai voulu en savoir plus. J'ai demandé au FSB de déclassifier son dossier et le responsable des archives m'a dit c'est incroyable parce que personne n'avait ouvert ce dossier depuis la fin de la guerre.
Incroyable, mais vous êtes bien placé au FSB. C'est intéressant. Si on bon, alors, on va quand même raconter, donc, d'habitude on dit le pitch, mais j'ai horreur de ces mots-là. Donc l'histoire, c'est quoi ? Wang Tifu, c'est le nom du personnage. Hein.
J'ai voulu faire sortir des oubliettes de l'histoire cet homme qui a une histoire complètement folle. Il est né au début du XXe siècle, il est mort à 90 ans, donc on peut dire qu'il a traversé quasiment tout le XXe siècle. Et il a rencontré Hitler, il a travaillé avec Puyi, le dernier empereur du Mandchoukou et le dernier empereur de Chine. Il a sauvé des Juifs. Il a été témoin, il a été envoyé ensuite au Goulag en Sibérie. Il était avec un certain Solzhenitsyn, il a participé à la plus grande révolte des Goulags. Et ensuite, il a fini sa vie, envoyé en centre de rééducation par Mao. Donc il a vraiment traversé tout ce siècle, il a vécu, il a été un petit peu le jouet de toutes ces dictatures. Et pour finir... ça, je vais peut-être pas le dire.
C'est la fin ?
Ouais.
Non, on va peut-être pas donner la fin. Non, ils vont être obligés de l'acheter comme ça. Non, effectivement. Il a croisé les monstres, les plus grands monstres de l'époque, ça c'est vrai. Pourquoi avoir écrit à la première personne ? Parce qu'en fait, il a laissé des témoignages.
Alors, ma grande chance, c'est qu'à force de chercher, j'ai réussi à trouver ces mémoires qui ne sont jamais sorties de Chine. Je les ai faites traduire, je les ai comparées avec les rapports d'interrogatoire du KGB pour vérifier ce qui semblait réaliste et fiable. Et c'est l'histoire de cet homme qui veut un peu sauver son honneur, en tout cas laisser une autre empreinte dans l'histoire que celle que la Chine actuelle veut laisser. Aujourd'hui, Wang Tifu, en Chine maoïste, en Chine communiste, est toujours considéré comme un traître, comme une ordure, et surtout pas un héros. Et c'est pour ça qu'il n'est toujours pas reconnu comme juste parmi les nations, parce que la Chine refuse de transférer au centre Wiesenthal les documents qui pourraient prouver qu'il a effectivement sauvé. On parle de 12 000 juifs. Il a distribué 12 000 visas pour des juifs entre 1939 et 1940.
Il était en Allemagne.
Il était basé à Berlin. Il donnait des visas pour que les juifs puissent aller vers le Mandchoukouo en traversant l'Union soviétique, c'était encore possible à l'époque, et après partir vers Shanghai, qui était un port ouvert et qui permettait de rejoindre les États-Unis ou l'Amérique du Sud.
Ouais, c'est assez incroyable. Alors, il a écrit ses mémoires, mais ses mémoires ont été censurées.
Ces mémoires ont été réécrites, censurées, ouais. Retravaillées. Ben, j'ai réussi à trouver les documents originaux avant publication. Wow. Donc j'ai pu comparer l'ensemble, tout vérifier et en tirer cette histoire.
Est-ce que c'est compliqué justement de démêler le vrai du faux ? Ça vous a pris combien de temps ? Parce qu'entre aller voir les archives ici, les archives là-bas, poser des questions.
Ben, en fait, ça s'est fait sur 3 ans. Au moment où j'ai trouvé les premiers documents à Moscou, où je les ai fait traduire, où j'ai demandé à ouvrir d'autres documents dans d'autres archives à Moscou, plus en Chine. Et puis là-dessus, il y avait le Covid qui rendait les choses beaucoup plus complexes. Donc ça m'a pris beaucoup de temps.
Vous alliez souvent, avant de commencer cette histoire, dans les archives russes, etc. Vous avez beaucoup travaillé avec les archives russes.
Oui, tout à fait. Avant ça, j'étais allé là-bas pour faire une enquête sur les restes humains, quoi, les restes d'Hitler qui sont conservés en secret dans les archives russes. Donc on parle des mâchoires et d'un morceau de crâne. Donc j'ai eu accès à ça, j'en ai fait un documentaire, un livre, une BD, donc j'en ai fait plein de choses. Et c'était dans le cadre de cette enquête que je suis tombé sur ce dossier.
D'accord, ouais. Dans le cadre d'une enquête, effectivement, c'est vous qui avez finalement prouvé qu'Hitler était bien mort.
Qu'il s'était bien suicidé dans son bunker le 30 avril.
Effectivement, et la BD est très bien d'ailleurs.
Merci.
Je vous conseille aussi la bande dessinée qui est très originale, très très étonnante, effectivement. Ce personnage-là, Wang Tifu, c'est un héros pour vous ? C'est un anti-héros ? C'est quoi ? C'est un homme dans la tourmente qui a fait ce qu'il a pu ?
Pour moi, c'est un homme ordinaire qui s'est retrouvé dans des situations extraordinaires et qui a essayé de survivre, qui a été ballotté entre des occupants, ensuite des dictatures, et qui à chaque fois a eu cette malédiction liée à sa connaissance des langues. S'il n'avait pas été polyglotte, il n'aurait pas eu à subir tout ça, parce que c'était l'un des rares intellectuels capables de parler parfaitement russe, allemand, japonais, et les Japonais s'en sont servis pour le forcer à travailler pour eux et, d'une certaine manière, à espionner ou à rendre compte de ce que disaient Hitler et les nazis, parce que les Japonais se méfiaient aussi des Allemands. Donc il s'est retrouvé vraiment au centre de ce tourbillon historique, bien malgré lui, et il a juste cherché à survivre, tout en essayant, pas d'être un héros, mais de ne pas être complètement le jouet de ces hommes.
Quand on écrit, comme vous, là, à la première personne, est-ce qu'on finit par s'identifier au personnage ? Est-ce qu'il y a un peu de vous dans le « je » parfois ou pas du tout ?
Non, honnêtement, j'ai essayé de lui rendre hommage et d'être le plus sincère parce que dans ses biographies, il donnait beaucoup de lui. Il ne rendait pas compte que des situations, que des faits historiques, mais il mettait de ses sentiments. Il est tombé amoureux d'une Allemande. Il a eu beaucoup de choses et il donnait son regard, je trouvais ça très intéressant d'avoir le regard d'un non-européen sur la Seconde Guerre mondiale en Europe. On en a très peu, on a nos visions à nous, et on était, les Européens qui en rendaient compte étaient partie prenante, étaient victimes, voyaient leur culture, leur cité détruite. Et lui, il avait ce regard d'un être d'une autre culture, d'un autre pays, d'un autre continent, et il ne comprenait pas bien pourquoi s'en prendre à ces Juifs, pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tout ça. Et je trouvais ça très intéressant de le retranscrire à la première personne pour donner cette émotion, pour ne pas avoir cette distance parfois un peu froide qu'on peut avoir dans une enquête ou dans un document historique. C'est pour ça que j'en ai fait un récit.
Vous lui faites dire d'ailleurs à un moment donné, j'ai rien contre les Juifs, je sais ni pour ni contre. En fait, c'est un peu, je m'en fous. En fait, c'est un peu ça, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut savoir.
Pas son monde.
Non, mais surtout, il était là où il vivait, au nord de la Mandchourie. Il y avait une communauté juive parce que c'était des Juifs qui venaient de l'Union soviétique ou de l'ancien empire russe. Donc, il les fréquentait. Il n'y avait aucun problème avec eux. Il n'y avait pas de dimension religieuse, de dissension. Voilà, c'était des Occidentaux comme les autres. Donc, ils ne comprenaient pas cette haine systématique contre les Juifs.
Vous parlez russe couramment ?
Non, j'ai appris à déchiffrer le russe, ouais. Qui me permettait, quand j'avais un document, de savoir à peu près ce dont il parlait.
Et le chinois et toutes ces langues que vous avez dû travailler ?
Non, j'ai fait traduire.
C'est compliqué, justement, de faire traduire et de ne pas avoir la source réelle ?
Alors, j'allais plus loin que ça. Je faisais traduire et je refaisais vérifier la traduction par
D'accord.
une autre personne.
Ah ouais, donc, c'est un long travail. Ouais. C'est un très long travail. On ne s'en rend pas compte. Maintenant, on comprend mieux, effectivement, les annexes que vous mettez. Est-ce que c'est pour éviter de prendre parti à chaque fois ?
C'était pour montrer que tout ça est vrai, que ça n'est pas issu de mon imagination, ça n'est pas romancé. Évidemment, je mets en situation, je n'y étais pas,
oui,
donc je me permets quelques libertés, mais l'architecture est absolument historique et vraie.
Est-ce que c'est pour vous plus un roman ou un livre d'histoire ? Avec un grand H.
C'est difficile à dire, c'est l'histoire avec un petit H, ouais. De la grande histoire.
D'accord.
C'est une histoire dans la grande histoire.
Un personnage pris dans la tourmente, en fait.
Cette histoire
incroyable.
Qui n'est pas que... C'est pas un épiphénomène, c'est pas anecdotique. Elle illustre ce qu'ont pu vivre tous ces témoins de ce siècle, parce que ça n'est pas que la Seconde Guerre mondiale.
Oui,
je
ça,
rapporte
ouais.
aussi ce qu'a pu être les purges en Chine, ce qu'est un camp dans un goulag au milieu des steppes kazakhs ou en Sibérie. La révolte, je trouvais ça complètement fou. Je retrouvais les descriptions de Solzhenitsyn dans sa biographie à lui, alors qu'il ne l'avait pas lu. C'est impossible qu'il puisse lire l'archipel Exactement. Du goulag. Et je retrouvais ça, et je trouvais ça tellement émouvant. Donc c'est vrai que j'ai essayé de mettre du relief dans les aventures de cet homme qui a passé sa vie à souffrir.
Un vrai travail d'historien, en tout cas. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre livre ?
Qu'on retienne que cet homme a fait preuve d'un certain courage, d'une ténacité, et qu'il a réussi à survivre et à surmonter à la fois toutes ces violences et toute cette injustice jusqu'à la fin de sa vie. Et si je peux l'aider, parce qu'il a des descendants, à ce que l'on rétablisse son nom, à ce que l'on dise non, ça n'était pas un traître, ça n'était pas une pourriture comme peuvent... Parce qu'ils utilisent ces termes en Chine. Hein. Si je peux apporter ça, j'aurais pas complètement perdu mon temps.
Les Chinois sont toujours très légers dans ce genre-là, effectivement. Pour qu'on vous connaisse un peu mieux, quel est votre film préféré ?
J'aime bien Les Duellistes.
Les Duellistes, très bien. Le film que vous adorez et que tout le monde déteste ? Le film dont vous avez honte, mais vous l'aimez quand même ? C'est une question bête, hein. Mais on a tous des films comme ça. Si vous voulez répondre. Mais...
Ça ne me vient pas.
Bon, alors l'inverse peut-être, le film que vous détestez alors que tout le monde l'adore.
Vous êtes dur.
Hein. Ouais. Bon, vous reviendrez si vous
voulez. Je reviendrai.
Cherchez des questions aussi de votre côté pendant ce temps-là, c'est pas grave. Et votre resto préféré ?
Alors, je n'habite plus Paris.
Non, mais c'est pas forcément à Paris, on est distribué partout là.
Celui qui m'a le plus marqué, c'était Passard. Alain Passard. L'Arpège, à Paris. L'Arpège.
D'accord. Et en dehors de Paris, vous en avez un sympa que vous nous conseilleriez?
Ah, il faut venir dans ma région, dans le sud-ouest alors.
C'est à quel endroit exactement?
Je suis à côté d'Agen.
Ah, magnifique. Bon, là, on mange bien, on boit bien.
Voilà, on vit bien. Ça s'appelle le gueuleton.
Bon, donc le gueuleton.
Le gueuleton, c'est spécialité régionale.
Très bien. Dans le public, il y a peut-être des questions. Moi, j'aime bien souvent vous demander. Allez-y, madame. Ah ben ça, c'est sympa. Donc, madame a lu votre livre. Est-ce qu'un jour vous aurez... Je le dis pour la radio parce que vous n'avez pas... Est-ce qu'un jour vous aurez l'occasion de faire un reportage dessus, justement? Oui.
J'y travaille.
Eh ben voilà.
J'y travaille. J'espère sincèrement y arriver. Donc, je vais l'adapter en bande dessinée.
Ah oui?
Oui, oui, comme j'ai fait
Hitler.
Pour Hitler. Ouais. Parce que j'essaye de toucher un maximum de public et je trouve que la BD sous forme de BD classique ou de roman graphique apporte une autre dimension et permet d'aller plus loin. C'est pas une répétition du roman, c'est une autre manière de l'appréhender. Et en documentaire, oui, j'espère sincèrement.
Vous travaillez déjà sur un autre livre, roman ou...
Alors, je travaille, j'adapte deux autres BD historiques. Une sur, pareil, sur des documents que j'ai exhumés en Russie, sur les rapports entre le Vatican et la Gestapo.
Ah oui, vous aimez bien cette période, en fait.
En fait, je suis tombé sur tellement de documents complètement fous. Notamment, là, c'était les rapports d'interrogatoire du chef... des services d'espionnage de la Gestapo consacrés aux religions et avec tout ce qu'ils ont pu faire entre 1943 et 1944 avec le Vatican. Donc j'ai ça. Et puis j'ai Le Dernier Mandchou qui est en cours d'adaptation.
Bon, ça c'est génial. Est-ce qu'il y aurait un mystère que vous aimeriez, que vous adoreriez travailler, lever? Il n'y a quand même pas que les archives russes.
Non. Et à chaque fois, je vais dans les archives, j'essaie d'avoir les archives chinoises, allemandes, suisses, j'ai plein d'histoires. Oui, il y en a une, parce que je me suis rendu compte, c'est toujours ça, la Seconde Guerre mondiale, je me suis rendu compte que Himmler, le cas Himmler, qui, donc vous vous souvenez peut-être qu'on a retrouvé vivant, quoi, il a été attrapé vivant par les Britanniques et il se suicide en avalant une capsule de cyanure. Et j'ai demandé aux archives britanniques de me sortir les documents sur son autopsie et ils m'ont rappelé que... elles étaient toujours classifiées.
Il est normalement, pas
mort. C'est 70 ans. Non, mais parce que l'histoire, les Russes, eux, pensent qu'il ne se serait pas suicidé.
Ouais,
il aurait été tué.
Ah, il aurait été tué, mais il serait mort à ce moment-là.
Oui, il serait mort à ce moment-là. Donc, ça m'intéresse.
Je ne sais
où. Non.
D'accord. Ah oui, ça, vous pensez que vous pourriez trouver les infos?
Je voudrais que les Anglais m'expliquent pourquoi ces archives, normalement c'est 70 ans,
ouais.
Là on est parti sur 150 ans.
D'accord. Et dans les archives françaises, on n'a pas des mystères?
Alors,
un petit peu
les archives françaises sont accessibles.
Oui.
Donc moi j'ai beaucoup moins de valeur ajoutée. J'aime bien aller dans les archives qui ne le sont pas. Et ce que j'ai trouvé aussi en Russie, c'était dans une salle à peu près de cette taille-là. Il faut savoir qu'en Russie, rien n'est digitalisé. Les archives, c'est encore des archives papier. Donc, ils ont des... C'est un bâtiment qui doit faire 12 étages. Ils savent à peu près ce qu'ils ont, mais ils ont quand même des trésors. Et à un moment, j'avais appris à lire le russe, ils me disent, voilà, dans cette pièce, toutes ces fiches, c'est des petites fiches, comme des fiches Bristol, un peu que de cette taille-là. Et il y avait des armoires avec dessus marqué les pays. Ils me disent, voilà, toutes ces fiches-là, ce sont les prisonniers que l'armée rouge a pu faire quand ils ont pris le contrôle de Berlin et de toute la partie orientale de l'Allemagne. Tous ceux qu'ils ont fait revenir en Russie. Donc ils me disent, ce sont à la fois les soldats de la Wehrmacht, les SS et les collabos qu'on a raflé tout le monde. Je dis, ah bon, bah super, puis je regarde le nom des pays, puis à un moment, je vois France.
Oh.
Donc j'ouvre, ils me disent, voilà, tous ces documents-là, ce sont tous les prisonniers qu'on a fait. Et ceux-là, on n'a pas travaillé sur ces documents en termes de... Les historiens n'ont pas pu avoir accès à ces documents. Et j'ai commencé à gratter, et il y a encore beaucoup de choses
incroyable,
à faire.
Donc, ah, c'est génial.
Voilà.
Donc on va se revoir.
Bah, j'espère.
On va se revoir avec grand plaisir. De toute façon, j'ai hâte. Donc, si on veut aller aux archives russes, on vous appelle. Et c'est vous qui avez le pass pour y aller.
C'est ça.
Jean-Christophe Brizard, mesdames, messieurs.
Merci à
beaucoup.
Vous.
Merci. Vraiment un vrai travail d'historien. Bravo. Vraiment. Voilà la fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.